Je vous présente aujourd'hui dans ce bel, ce beau rassemblement intellectuel, culturel, sous le titre Récit nomade, une écrivaine qui est devenue le symbole du nomadisme, Isabelle Eberhardt. Elle est née en Suisse dans le dernier quart du 19e siècle. Et dès son jeune âge, elle avait les yeux virés sur l'ailleurs, sur le chemin, sur l'allée, etc. Elle le dit dans ses écrits. Elle est venue en Algérie à l'âge de 20 ans. Elle est repartie et puis elle s'est consacrée pendant une période bien précise de sa vie, car elle devait mourir très jeune. Elle est née en 1877 et elle est décédée en 1904, emportée par la crue d'Annouette dans le Sahara algérien. Elle devait écrire toute son œuvre durant 4, 5, 6 années au plus. Et ce qu'elle a laissé comme écriture, c'était un miracle. Un miracle pourquoi ? Parce que, emporté par la crue, les écrits, ses journaliers, ce qu'elle nomme journaliers, ses carnets, etc., étaient dans une sacoche et ils ont été justement plus ou moins emportés comme elle, mais on les a quand même sauvés. Elle avait des amis qui s'intéressaient à son travail, à sa création littéraire, à ses voyages, et on a tout fait pour sauver cela. On les a publiés en 1920. On a commencé à s'intéresser à cette figure de qu'on appelait la nomade, du nomadisme, du vagabondage, etc. Et malheureusement, on a très peu porter l'attention sur ses écritures en profondeur. C'est ce que je vais en quelque sorte essayer de faire par rapport à tout ce qu'on a écrit sur elle, par rapport à toutes les biographies qu'on a faites sur elle. En fait, on n'en a fait que des biographies. On relate sans arrêt, on revient, on répète qu'elle a été voyageuse, qu'elle a, etc. Et on s'est arrêté plus ou moins aux étapes à des étapes précises de sa vie. J'ai intitulé alors ce travail Isabelle Eberhardt, écrivaine et perceptrice des chemins qui mènent infiniment à l'autre, c'est-à-dire à vous, à moi, à tous, dans le sens où elle devait travailler dans ce sens, même si son travail devait porter aussi sur des choix très stricts dans sa vie. Elle devait aller vers l'autre, mais elle devait revenir à quel autre, en quelque sorte. Et son travail, surtout sur l'écriture, l'a amené vers des écrivains bien précis et a fait en sorte qu'elle n'aille pas chez d'autres, comme Gide, par exemple. Elle a préféré Loti à Gide, elle a préféré les Goncourt à d'autres, etc. Alors, vous avez sous vos yeux un petit peu le plan de mon travail. En l'introduisant à travers ce titre, une enfant des limbes, mais bien heureuse parce que elle est née d'une union illégitime, elle est née en Suisse, elle n'était pas parce que sa mère est russe, son beau-père ou celui qui semble être son père est russe aussi, et puis elle est née enfin dans le dernier quart du siècle, c'est ce que je vais un petit peu dire, et puis je vais aller vers le sens d'une nomadisme chez elle, le nomadisme en tant que démarche créatrice, bien précisément, parce que c'est l'une des figures du XXe siècle qui avait porté sur la notion de voyage un regard plus créateur que d'autres. plus précisément, et en la considérant comme étant une image opposée à l'image de l'exotisme. Elle n'a jamais été exotique dans le sens où l'exotisme est un déplacement de soi par rapport à l'autre. Elle était plutôt dans la réunion avec l'autre, mais elle avait aussi des choix. Alors le nomadisme en tant que démarche créatrice, une écrivaine de la génération Internet, Et cela pour dire qu'elle est une écrivaine tout à fait moderne, dans le sens où elle a créé une nouvelle façon d'écrire le roman. Je vais montrer comment elle faisait du roman vivant, en quelque sorte. Ce n'est pas le fait d'imiter l'autre, de pasticher ou bien de prendre l'événement qui a déjà été fait, mais plutôt l'événement vivant lui-même et son approche de cela. Et puis, un deuxième point, la femme au masculin neutre, au-delà de toute prétention biologique, elle n'est pas dans le transgenre, si vous voulez, elle est plutôt quelque chose d'autre que le fait qu'elle voudrait devenir masculin ou homme plutôt que femme ou bien autre chose. Et puis le désert pour ne pas rester seule, mais avec, parce qu'on a toujours dit, elle le dit, je suis seule, mais elle ne l'est pas pour autant. C'est ce que je vais développer un petit peu, si j'ai le temps. Et puis le voyage, une petite conclusion comme remède au mal de Narcisse, parce que d'après moi, il n'y a que Narcisse qui pourrait ne pas aimer le voyage, qui pourrait rester dans cette image stagnante de lui-même et mourir comme il l'a fait ou bien comme il lui était destiné de le faire. Je commence. Isabelle Eberhardt, je lirai un petit peu, je développerai un petit peu, on verra. Mais je vais plutôt baser ma lecture sur la première partie parce qu'elle est intéressante, parce qu'il y a des citations qu'il faudrait noter, nommer, etc. Et puis le reste, on va essayer de le travailler oralement. Comme le titre que j'ai proposé pour participer à ce bel événement de création sur le récit nomade ne peut être abordé que sous le signe de l'altérité. J'ai construit ma communication autour de trois points qui formulent exemplairement cette idée dans l'écriture héberatienne et semblent même en être la base. L'écriture, l'homme et l'espace, et auxquels j'ai attribué les titres que vous avez sous les yeux. Dans l'étude, bon, je vais passer cela parce que c'est un avis personnel à propos de l'étude créatrice, etc. Je dirais pour commencer que si Isabelle Eberhardt devait devenir une enseignante du monde, c'est à travers son élaboration intelligente de cette notion de l'altérité, qu'elle envisage comme inhérente à soi et dont elle a pendant quelques petites années, 6 ou 7 au plus, puisqu'elle devait mourir très jeune, tracer les principes et essayer de s'y soumettre en tant qu'être humain et artiste ensemble. Mais l'évoquer sous ce visage n'est pas chose aisée, car si la vie et l'écriture de cette écrivaine sont souvent définies à travers un alter-espace, celui-ci n'est pas nécessairement celui de ce qu'on appelle l'étranger, mais cette dimension où se joue l'étonnante duplicité de la notion qui pourrait éventuellement évoquer le propre moi de la personne qui dit « je » face à l'autre. Je suis l'autre et non pas moi dans la vision de l'autre qui dit « je » automatiquement. Et je suis un autre par rapport à mes propres moi. Proust en a élaboré 3 moi, le moi social ou provisoire ou bien comme il l'appelle superficiel, le moi personnel, profond et puis le moi poétique. Cette idée que nous développerons ultérieurement sous les titres cités. En guise d'introduction, alors une enfant des limbes mais bien heureuse. Née d'une union illégitime, à moitié helvétique et à la fin d'un siècle qui a cumulé tous les déboires de l'époque. Cet enfant qu'on appela Isabelle comme en religion et à laquelle on attribuera comme dans un matriarcat le nom de la mère, Eberhardt, aura dès l'aurore de sa vie les yeux rivés sur l'ailleurs et un singulier penchant pour la route. Je la cite, « Nomade j'étais, quand toute petite je rêvais en regardant les routes. Nomade je resterai toute ma vie, amoureuse des horizons changeants, des lointains encore inexplorés. » Fin de citation. On la disait pour ce nombre important de lacunes identitaires héritées, lacunes de sang, lacunes de nationalité et d'époque, et dont elle-même en fera état plus tard dans ses mots. Elle disait « sans religion, fille du hasard et élevée au milieu de l'incrédulité et du malheur ». On la disait prédestinée dès le départ soit à la folie, soit à l'errance. Mais vu le faste éducatif qui l'avait accompagnée jusqu'à ses 20 ans, on ne doute presque guère qu'elle ne devienne par ainsi écrivaine. L'éducation fort rigoureuse de son précepteur et père spirituel, vraisemblablement aussi son père, mais on a aussi attribué sa paternité à Rimbaud. À partir, il y a une étude biographique très intéressante qui est allée bien précisément dans ce sens. Alors, l'éducation de son précepteur Alexandre Trofimovski, dont l'érudition était étourdissante et qui, soumis à une pression spirituelle écrasante, fiévreuse, orageuse, ses demi-frères et sœurs, ce qui suscita chez eux la fuite et causa, semble-t-il, la mort de l'un d'eux, la rendit paradoxalement passionnément amoureuse de la vie, mais moins de celle qui arbore le goût au faste matériel, sa pratique prématurée de l'abandon de soi en s'adonnant déjà très jeune au vestimentaire masculin tout en restant profondément femme en elle, l'amie illico au service d'un idéal de dénuement dont elle épousera presque par instinct toutes les voies. Isabelle Eberhard, qui dans mon enfance algérienne me paraissait un personnage de conte merveilleux, et dont je ne cessais de lier le nom à un espace immaculé, à une rivière d'eau féerique, au comble d'une joie d'enfant, n'a pas pour autant perdu de cette énigme dans mon esprit d'adulte, où elle s'y est implantée comme le double narcissique de son œuvre, comme cette dernière se confond exagérément avec sa vie tout court. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Isabelle Eberhard sans la lier à sa vie d'artiste. Si on revient uniquement à sa vie tout court, il y a toujours le côté artistique qui viendrait nous la raconter à travers cela. Mais que savons-nous d'Isabelle Eberhard jeune avant l'écrivaine? Pas grand-chose, sinon qu'elle était née dans une grande maison en Suisse, fournie d'une immense bibliothèque et d'un précepteur qui lui a appris à ses frères et sœurs, 4 ou 5 langues, et qu'elle était sans doute aussi l'enfant illégitime du poète illuminé Rimbaud, qui eut par comble du destin une vie aussi tumultueuse que la sienne en quelque sorte, et qui mourut quand même assez jeune comme elle, c'est le destin, mais on ne peut pas justement aller dans ce sens par hérédité ou quoi que ce soit. C'est là que l'on pourrait recueillir, comme je le fais dans quelques lignes, sur la base de quoi ces biographes auraient tissé et brodé pour en faire une ou deux pages de leur livre s'ils n'avaient pas été amenés à ouvrir les véritables pages de sa vie à travers ses journaliers, notes et autres carnet qui nous la confie tout entière dans son éclat de femme faite pour la traversée éblouissante de la vie. Une femme en arc-en-ciel, une étoile, un bonheur qui égaya tous les espaces qu'elle a foulés en Afrique et ailleurs et qui ouvrit entre autres et de manière magique le livre hermétiquement fermé d'un peuple condamné à souffrir pour ses propres qualités et gisant injustement sous le joug d'une colonisation qui voudrait lui effacer jusqu'à son allure la plus primitive, celle qui le fait être humain. On est allé aussi, surtout pour ces biographes, on est allé dans ce sens, le fait qu'elle défende les Algériens à l'époque colonisée, le fait qu'elle en fait des amis et même sa propre communauté, etc. Je ne vais pas aller dans ce sens. Si Isabelle Eberhard n'avait écrit que des romans, elle serait devenue écrivaine de l'exotisme et n'aurait jamais révélé à ses lecteurs cette impressionnante page sur le secret d'une plume qui s'attela à chercher l'être sublime de l'homme dans les abysses intelligents du mot. C'est ce qu'elle a fait plus précisément. Et c'est cette partie que je vais développer bien précisément. Sous le signe d'un jeu, je passe parce que c'est un peu lent, alors je vais essayer de... Sous le signe d'un jeu personnel, joué, renversé, réhabilité, jusqu'à rendu autre que nous lisons dans les pages suivantes, l'authentique femme écrivaine que fut Isabelle Eberhard. Je vais développer cela sous le signe du « Je est un autre » de Rimbaud, bien évidemment, mais au-delà de la prétention poétique. Si on devait lier Isabelle et Bérat à Rimbaud, ce serait moins à travers une filiation de sang que d'esprit, même si leurs deux visages paraissent étonnamment parents. Je vais cliquer un petit peu sur les images et vous verrez qu'elles ressemblent. Ça, c'est la première image, c'est là où elle avait habité, à Ain Safara quand elle était vivante, bien sûr. Et c'est dans cette maison qu'elle a été emportée par l'inondation. Ça, c'est une autre image. Peut-être que vous allez remarquer un petit peu la ressemblance entre elle et Rimbaud, ce qui n'est pas notre propos, mais je trouve cela justement un petit peu amusant. Et là, c'est une peinture effectuée par un artiste sur elle, sur son cheval qu'elle appelle Souf. Le cheval Souf, relatif à la ville où qu'elle a aimé, sur laquelle elle a écrit Ouad Souf, comme on l'appelle aujourd'hui en Algérie, la ville des mille coupoles, comme on l'appelle. Et puis cette autre image d'elle qui est fantastique et qui a servi comme la première page du livre de Tiffany Tavernier, mais c'est toujours dans le sens de la biographie. Alors même si leurs deux visages paraissent étonnamment parents, ce n'est pas cela qui va quand même nous changer d'avis pour dire que c'est surtout l'esprit de Rimbaud qui allait influencer et fortement Isabelle et Bérat. Je reprends un petit peu sur cela. Si on devait les rapprocher, ce n'est pas pour cela. Mais si on perçoit sous un nouvel angle ce mot magique du maître des voyelles, j'ai pris le mot de « je est un autre » dans le sens où on voudrait le correspondre uniquement au « moi créateur ». C'est ce qu'un petit peu Rimbaud a expliqué, mais ce n'est pas dans ce sens aussi que Rimbaud, je pense personnellement, ce n'est pas dans ce sens uniquement qu'il est allé. Il est évident que la formule de Rimbaud citée dans le titre et qui est devenue un leitmotiv de la création littéraire en relation avec le moi complexe de l'écrivain ou avec ses différents moi connus ou abyssaux, n'a a priori pour ceux qui s'intéressent au simple fait de la création artistique aucune relation avec l'autre dans son sens ethnographique. Mais si on perçoit sous un nouvel angle ce mot magique du maître des voyelles, cette donne de l'autre ethnographique devient obligatoire pour la compréhension de l'expression. Car Rimbaud l'explicite à travers d'autres mots. Si le cuivre s'éveille clairant, il n'y a rien de sa faute. Alors je dois mettre tout cela dans d'accord. Alors je passe et on discutera du reste après. L'écriture, c'est autre soi pour se parfaire. Ceci qui est plus important qu'autre chose pour Isabelle et Bérat. Le nomadisme en tant que démarche créatrice. Si Isabelle, et je dois le lire parce que, pour citer plus précisément les citations et en relation avec ce qu'elle a écrit, si Isabelle et Bérat étaient uniquement devenues nomades et n'avaient jamais songé à inscrire cette dure entreprise de vie dans un programme d'écriture, son cheminement aurait été vain et sa conduite n'aurait intéressé personne, sinon quelques écrivains de hasard. C'est en réalité l'inscription de cette errance dans un programme d'écriture et de création qui a fourni au monde des lettres, au moins, une poétique exemplaire de cette notion où l'errance n'est point un égarement, mais un rythme qui rejoint aujourd'hui celui que nous menons dans nos sociétés modernes, etc. Partir, son mot-clé, est le leitmotiv de sa pensée, et c'est à travers une démarche philosophique et intellectuelle qu'elle devait petit à petit développer un acquis comportemental qu'elle entreprendra comme une quête d'un absolu à parcourir indéfiniment. Je la cite. Toute ma vie passée, toute mon adolescence ont contribué à me faire comprendre que le tranquille bonheur n'est point fait pour moi. Et maintenant, je suis entrée dans mon rôle. Je l'aime plus que tout bonheur égoïste. Je lui sacrifierai tout ce qui m'est cher. Ce but-là sera toujours mon point de direction à travers la vie. Il ne faut donc nullement rattacher son besoin d'arpenter l'immensité géographique du Sahara à une puérile envie de changer d'air ou de vouloir aller en s'attachant fortement aux choses matérielles déjà acquises, à la découverte de nouveaux visages que le voyage anodin rajouterait comme des objets exotiques au panier du voyageur. Elle cite encore « Il faut aussi ne pas oublier que je suis venue au désert non pas pour me livrer au dolce far niente, mais bien pour travailler, que ce voyage peut devenir un redoutable naufrage de tout mon avenir ou bien un acheminement vers le salut tant matériel que moral, selon que je saurais me débrouiller ou non. Et surtout, puisse ce temps n'être point perdu à tous les points de vue, à ceux surtout de mon développement intellectuel, moral et de littérature. » Alors, dans ce sens, il y a tellement de citations, tellement à prendre de ces livres pour dire que elle est allée vers la confrontation de son vécu à la littérature pour se faire elle-même un modèle dans la littérature, à travers l'écriture. Elle voulait à tout prix parvenir à travers ce cheminement et à travers le désert qu'elle devait prendre comme motif et comme entreprise. Elle devait s'acheminer à travers l'écrit bien précisément pour écrire. Dans ce sens, pour l'unique en quelque sorte entreprise de l'écrit, et elle va aller dans ce sens à travers un plan bien défini. Elle va montrer que l'écriture ne suffit pas si elle n'apportera rien de positif si on la met pas en perspective pour un but bien précis, mais surtout si on n'en dresse pas un plan. Le plan comment ? Lire avec vigilance. Lire avec vigilance parce que quand on se disperse dans la lecture, il y a lieu que on n'aboutit pas à, lorsque on a cet engagement en tête, l'engagement d'être, de devenir écrivain à travers un objectif qui est le voyage, bien précisément pour elle. Et à partir de là, il y avait cette intelligence intellectuelle, cette vigilance intellectuelle chez elle. Et elle le dit à ses lecteurs, ce sont des consignes. Voilà ce que vous devez lire. Il y a les chemins d'avant, et elle cite même la Bible pour venir à montrer que voici tous les chemins que vous avez passés jusqu'à présent. Réfléchissez et prenez le chemin qui convient pour aller vers le salut. Et à partir de là, sa démarche était inscrite dans cette traversée du désert en tant que motif pour atteindre un but. Son but, ce n'était pas l'aspect spirituel. Enfin, même si c'était dans ce sens, elle a pris le cheminement spirituel. Elle a épousé l'islam, mais elle était dans un autre sens de la représentation spirituelle. Elle voulait aboutir à plus que cela. Elle voulait aller dans un sens de l'islam qui est dans sa tête, en quelque sorte. Et c'est pourquoi elle devait un petit peu raccommoder à travers les gens qu'elle a connus, les deux choix. Elle avait le choix à faire aussi de deux penchants islamiques entre cette démarche-ci et cette démarche-là. Et à partir de là, elle devait aussi dépasser cela pour aller rejoindre un absolu qui est dans sa tête. C'est ça qui fait un petit peu cette traversée d'Isabelle Eberhard. Si j'ai une toute petite minute pour dire le fait qu'elle devienne le titre que j'ai annoncé, qui est une écrivaine de la génération Zuckerberg, comme on dit, ou bien de l'Internet. Elle est venue à montrer elle faisait de l'écriture une écriture spontanée, en mouvement, et comme je l'ai appelé ici, elle faisait du selfie en écriture. Elle s'auto-écrivait en quelque sorte. Elle se prenait dans ce sens. Merci.